on a toujours, toujours. Césaire appelait ça le troupeau des vieilles peines. Il parlait souvent du troupeau des vieilles peines qui reviennent. Mais c'est vrai que on a un peu l'habitude de perdre des êtres qu'on aime. On connaît cette douleur, on connaît ce coup au cœur, comme disait Césaire. Mais là, ce qui s'est passé aujourd'hui, pour moi, ça a été vraiment une immense tristesse. Hein. Quoique c'est un grand chagrin. Et pour l'expliquer, c'est très, très, très difficile. Je n'ai pas été un fils proche de Césaire. Je suis plutôt un fils bâtard. Et même si l'éloge de la créolité a toujours a été dédié à Césaire, il s'est inscrit dans une continuité de la négritude. On a beaucoup opposé créolité et négritude, ce qui était une absurdité. Mais ce qui me surprend le plus, c'est l'ampleur de la tristesse. Une tristesse, c'est comme si une bonne partie de la matière de ce qui me constituait a été s'est précipité dans une absence. Ce qui nous amène à dire que la présence de la poésie, la présence d'un poète, surtout dans un combat que nous menons, parce que Césaire menait le même combat que moi, d'une certaine manière. Moi, je me bats pour la liberté de mon pays, je me bats pour plus d'humanisation, d'une certaine manière, pour aller vite. Et sa présence, sa poétique, son ton, son verbe faisaient partie de toute la matière de ma posture. Et cette tristesse, c'est un peu c'est comme si j'avais des étais comme ça qui étaient là, qui brusquement étaient enlevés. Il faut retrouver l'équilibre, l'équilibre singulier que l'on doit construire. Ça, c'est la première idée. Et pour montrer aussi à quel point la poésie est importante dans une vie d'homme. La poésie, un poète fondamental, un poète important, un verbe important. On a toujours l'impression qu'on est simplement dans le poétique, dans le culturel. Mais là, avec cette disparition, on s'aperçoit que la matière même de notre existence est portée par ce verbe-là, cette présence-là. Donc, une très, très grande tristesse. Alors, ce que je dirais de Césaire, il y a deux choses qu'il faut distinguer et qu'il faut célébrer aussi. Hein. Il y a la dimension rebelle et la dimension du guerrier. Le guerrier rebelle, c'est celui que l'on replace dans le contexte de la décolonisation. Hein. C'est opposé au champ colonial qui, à l'époque, dans les années 30, était quelque chose qu'on ne peut même pas imaginer, une célébration de la supériorité occidentale, de la civilisation apportée à l'Afrique, à tout ce qui n'était pas blanc. Enfin bon, une absurdité totale, mais qui était admise et intériorisée pratiquement par tous ceux qui subissaient cette damnation. Donc, il s'élève contre ça et il se bat contre ça. Deuxième dimension, l'Afrique. L'Afrique qui, à l'époque, est considérée comme une terre de barbarie, de sauvagerie, en dehors de l'histoire. Les nègres, c'est même pas des hommes. Enfin bon, on peut pas imaginer ça maintenant, mais c'était effrayant à l'époque. Donc, deuxième contexte, le rebelle va valoriser l'Afrique. Il va chanter l'homme noir et presque tous les noirs du monde, surtout les Africains, vont être complètement redevables à Césaire de cet espoir, de cette étoile, de cette flamme qu'il a soulevée, qu'il aura restituée. Je dirais une bonne part de leur humanité. Mais le problème, c'est que moi j'ai eu la chance de ne jamais limiter Césaire au contexte du rebelle. C'est vrai qu'on ne peut pas comprendre le XXe siècle et on ne peut pas comprendre le contexte de décolonisation et du combat pour l'Afrique si on n'utilise pas l'œuvre de Césaire. Mais l'œuvre de Césaire va au-delà de ça. Et dire décolonisation et négritude pour parler de Césaire, c'est comme si on parlait de 0,02% de la puissance poétique à laquelle nous avons affaire. Et ce qu'il nous a enseigné, c'est que pour s'opposer à des damnations aussi totales, parce qu'on ne peut pas y... Lorsqu'on était noir dans le monde, il n'y avait pas d'oxygène, il n'y avait pas de fenêtre, il n'y avait pas d'horizon, on ne savait même pas vers où orienter le combat. Et même lorsqu'on luttait, on avait intériorisé l'infériorisation. C'est-à-dire qu'on pouvait se libérer par les armes tout en se pensant encore inférieur. Et jusqu'à aujourd'hui, on voit que beaucoup de consciences noires dans le monde ont cette malédiction qui pèse. Il nous a montré qu'il fallait rester toujours du côté de la beauté et que pour articuler son combat, il ne fallait pas répéter ce que le dominant, que le colonisateur, que l'agresseur, que l'oppresseur avait constitué. Et il a forgé ses armes avec le feu poétique. Et ça, c'est absolument essentiel. C'est-à-dire qu'il nous dit que lorsque nous avons à résister, à nous battre, nous ne devons pas simplement renverser les termes de la domination comme le fait le rebelle, même si un rebelle, c'est important, il faut qu'il y ait des gens qui tout de suite réagissent à l'agression, etc. Mais que nous devons transformer l'imaginaire des peuples et nous devons transformer le monde. Et nous devons nous recourir à un plus d'humanisation, c'est-à-dire un plus de beauté dans le monde. Et toute son œuvre, c'est, et je dis souvent que Césaire, c'est un grand poète tragique. Pourquoi c'est un poète tragique? C'est un poète tragique parce que donc, tous les poètes sont tragiques, en ce sens que tous les poètes n'atteignent vraiment je dirais, à la poésie. On chemine vers son art, on chemine vers ce qu'est l'intensité poétique, mais de poème en poème, l'intensité poétique diminue. On essaye de comprendre ce qu'est le mystère de la poésie et on passe sa vie à la rechercher. Donc il y a un tragique de toutes les poétiques. Donc il y avait ce tragique-là chez Césaire. Mais l'autre tragique, c'est Césaire, c'est que son petit pays, la Martinique, est resté dans une situation de néocolonialisme, d'assistanat, de dépendance. Il y avait une telle lucidité chez Césaire qu'il ne pouvait pas ne pas subir cela. C'est vrai qu'il y avait le travail politique pour améliorer la condition des gens, la revendication de l'autonomie, mais il se rendait compte que nous étions, d'une certaine manière, restés dans une souffrance presque indépassable, hein, qui est celle que nous connaissons. Donc il y avait cette amertume-là et cette douleur-là. Et on a donc cette impossible conscience qui est à la fois tellement lucide du point de vue poétique et cette impuissance politique qui chemine ensemble et qui nous donne une conscience tragique. Et tout le texte de Césaire, ça commence même dès le cahier de retour au pays natal et ça se poursuit dans Moi Laminaire, on voit le cheminement d'une conscience incroyable, d'une conscience miraculeuse, une espèce de clairvoyance poétique qui surgit dans une petite colonie, une île à sucre, dans des conditions coloniales effrayantes, et qui arrive finalement, qui essaye de cheminer vers la beauté, qui essaye de cheminer vers un épanouissement personnel, et qui se pose des questions fondamentales, des questions essentielles, sans rien perdre des modalités du contexte. Et ça, c'était très difficile à vivre, mais c'est surtout très précieux quand on... C'est vraiment ce qu'il y a de plus humain, ce qu'il y a de plus tragique dans l'humain, ce qu'il y a de plus magnifique dans l'humain, ce qu'il y a de plus comme espérance et comme désespérance en même temps, qui chemine dans le travail d'Aimé Césaire. Et aujourd'hui, si on lit cette dimension-là, on s'aperçoit que c'est la dimension guerrière. Moi, je fais l'opposition entre le rebelle et le guerrier. Le rebelle renverse les termes de la domination, alors que le guerrier ne laisse aucun oxygène à la domination. Et le cheminement de Césaire, dans sa poétique et dans sa fréquentation de la beauté, ça a été une position guerrière. C'est-à-dire qu'il nous réinventait le monde, il regardait le monde et il recomposait un monde où aucune domination, aucun racisme, aucune pauvreté, aucune déshumanisation, aucun déshumain n'était envisageable. Et ce cheminement-là, il l'a éprouvé de manière la plus intense.
Voilà, c'était pas